Il est 8h.
Tous les matins, je me réveille en disant « c'est un cauchemar, c'est pas possible ». Ça ne s'est jamais passé comme le papa l'a dit.
Les vérités d'une mère de famille accablée par l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Sa fille, à elle, était bien présente lors du cours de Samuel Paty sur la liberté d'expression. « Je vis avec une culpabilité », dit-elle au micro d'Europe 1. Comment n'a-t-on pas vu venir la radicalisation du tueur, pas repéré par les services ? Le point sur l'enquête et la responsabilité des réseaux sociaux, mise en avant une nouvelle fois, réceptacle des images les plus insupportables et des discours de haine. Dans ce journal, des civils armés qui voulaient kidnapper la gouverneure du Michigan à quelques jours de la présidentielle américaine. Reportage avec ces miliciens qui manifestent, armes de guerre à la main. Et puis en football, voilà le mauvais souvenir Manchester United qui revient ce soir au Parc des Princes. Le PSG aura à cœur de montrer qu'il a appris la leçon.
Juste après ce journal, Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général de l'éducation nationale, auteur du livre « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école », auteur d'un rapport oublié en 2004 sur les dérives à l'intérieur des établissements scolaires. Jean-Pierre Aubin, au micro de Sonia Mabrouk, à 8h15. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'hommage de toute une ville ce soir avant celui de la nation demain. Conflans-Sainte-Honorine, 18h30, devant le collège du Bois d'Aulne, une marche blanche à la mémoire de Samuel Paty décapité pour avoir montré une caricature à ses élèves.
L'émotion absolue ressentie depuis vendredi, elle est particulièrement douloureuse pour cette maman que nous allons entendre, Karine, dont la fille a vécu ce cours sur la liberté d'expression.
Lorsque la vidéo du parent d'élève, aujourd'hui au cœur de l'enquête, a été mise en ligne, elle est tout de suite montée au créneau.
Tous les matins, je me réveille en disant « c'est un cauchemar, c'est pas possible ». Parce que j'ai vu la vidéo du papa. Et oui, quand j'ai vu, j'ai fait « non, mais on peut pas laisser, je peux pas laisser passer ça, c'est pas possible. Je peux pas dire qu'il a montré une photo, or ce n'était pas une photo, c'était une caricature, qu'il a voulu viser des musulmans, or, il n'a pas visé qui que ce soit ». Et j'ai fait partie des mamans qui ont tout simplement mis un commentaire en disant « ça ne s'est jamais passé comme le papa l'a dit ». Lui ne m'a pas répondu, après j'ai eu des commentaires très virulents. Donc samedi, bah, je vivais un peu avec cette culpabilité. Hein. C'est comme si j'avais voulu sauver le monde mais que j'avais pas réussi devant l'école. Donc quand je suis arrivée, en fait, je me suis complètement effondrée. Et on a même été pris en charge par la cellule psychologique samedi. On m'a parlé puisqu'on voulait comprendre pourquoi je me mettais dans un état comme ça. Et j'ai expliqué tout simplement parce que j'avais l'impression de me sentir responsable de ne pas avoir réussi à le sauver, quoi.
Témoignage au micro Europe 1 d'Hélène Terzian.
Dans l'enquête judiciaire, à ce stade, 15 personnes sont en garde à vue, des proches du terroriste ainsi que le père d'une élève et même 4 collégiens sont entendus.
Reste cette question, comment n'a-t-on pas détecté le moindre signal suspect chez l'assaillant ? Gladys Lafitte nous résume ce que l'on sait.
La radicalisation du tueur serait passée inaperçue auprès de ses proches. Les services de renseignement non plus ne l'ont pas repéré. Pourtant, le jeune homme d'origine tchétchène s'exprimait beaucoup via les réseaux sociaux sur 4 comptes Twitter. Appel à la violence, paroles antisémites, des messages signalés directement à Twitter par des associations antiracistes ou alors transmis sur la plateforme Pharos, comme en juillet dernier. Signalement remonté à la DGSI qui ne s'est visiblement pas inquiété de l'homme derrière l'écran. Sur Internet, il a en tout cas visionné relayer les vidéos du parent d'élève qui appelait à la mobilisation contre Samuel Paty. Ils sont même entrés en contact sans que l'on sache s'ils ont échangé sur le projet macabre du terroriste. Peu avant l'attaque, il a aussi eu des liens avec un ancien condamné pour terrorisme, aujourd'hui en garde à vue. Parmi les questions que se posent aussi les enquêteurs, a-t-il bénéficié d'une aide matérielle et financière ? Il disposait en tout cas d'au moins 300 euros, somme distribuée à des collégiens quelques heures avant l'attaque pour les inciter à lui désigner Samuel Paty.
Gladys Lafitte qui parlait des réseaux sociaux. Les patrons français de 5 d'entre eux, les plus prisés, Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok, Google, sont convoqués par la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, pour évoquer la lutte contre le cyber-islamisme.
Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour.
On entend souvent dire que ces géants du net ne font pas assez contre la haine en ligne. Qu'en est-il précisément ?
Bien sûr, le papier, les réseaux sociaux font de plus en plus d'efforts pour filtrer au mieux les contenus. L'an dernier, par exemple, on sait que Twitter a suspendu 270 000 comptes pour incitation à la haine et quelques 180 000 autres pour apologie du terrorisme. Chez Facebook, on fait savoir que 15 millions de contenus liés d'une manière ou d'une autre au terrorisme ont été sanctionnés depuis le début de l'année et 99% l'ont été avant même d'avoir avoir été signalé par la communauté.
99%, donc le problème, Clément, c'est le 1% qui reste.
Ah oui, hein, il suffit en fait de quelques minutes seulement pour qu'un contenu haineux produise son effet. Alors, la majorité a bien essayé de forcer les plateformes à mieux réguler la haine en ligne, mais la loi Avia a été vidée de son contenu par le Conseil constitutionnel au printemps au nom de la liberté d'expression. Mais voilà, avec l'assassinat de Samuel Paty, un cap a été franchi. Ils se prennent pour les rois du monde, mais Facebook est un des plus grands complices du terrorisme, torpille un ministre de premier plan, ministre qui assure qu'il va militer activement pour sanctionner financièrement et de façon massive les réseaux sociaux en cas de manquement à leurs devoirs.
Merci Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1. Aux États-Unis, débat demain soir entre Donald Trump et Joe Biden. Une innovation pour éviter que les deux candidats à la Maison-Blanche s'interrompent trop souvent. Le micro de celui qui n'a pas la parole sera coupé à chaque fois pendant 2 minutes. Et justement, votre nouveau rendez-vous dans le journal de 8h jusqu'à la présidentielle américaine dans pile 2 semaines.
The American Election. Le carnet de route de Théo Manval qui sillonne les États-Unis avec son micro Europe 1. Bonjour Théo.
Bonjour.
Le climat est ultra tendu en cette fin de campagne dans le Michigan où vous vous trouvez, puisque des milices d'extrême droite se font entendre et se font menaçantes.
Effectivement, Lansing, capitale de l'état du Michigan, le week-end dernier, des hommes en armes et tenues paramilitaires occupent les marches du gouvernement local. J'ai ma réserve de munitions et mon fusil d'assaut toujours chargé, explique ce membre de la milice pour la liberté du Michigan. Le mot d'ordre, les restrictions sanitaires liées au Covid sont un complot contre le peuple.
Je ne connais personne qui ait été contaminé par le Covid, mais je connais plein de gens qui ont perdu leur entreprise ou leur boulot à cause de ça. Tout est exagéré dans un but politique, c'est sûr, pour restreindre nos droits, toujours plus.
Alors qu'est-ce que tout cela vient faire dans la campagne présidentielle, me direz-vous? Eh bien, il y a 2 semaines, 13 de ces miliciens ont été arrêtés. Ils prévoyaient d'enlever la gouverneure démocrate du Michigan qui a déclaré l'urgence sanitaire. Une gouverneure que Donald Trump tacle à chacun de ses meetings. Get your schools open. Elle a été menacée, elle n'a qu'à rouvrir les écoles. Le président américain utilise en fait comme levier de sa campagne les mesures impopulaires prises localement contre l'épidémie par les États démocrates, quitte à encourager du même coup les groupes les plus dangereux, explique la chercheuse Amy Cooter, spécialiste de ces mouvances.
Lors d'un récent débat télé, il s'est adressé aux Proud Boys, un groupuscule d'extrême droite, en leur disant de se tenir prêts. Ils l'ont pris comme un signal à passer à l'offensive si les choses tournent mal.
En clair, être prêt à l'affrontement en cas de tension après l'élection si les résultats définitifs se faisaient attendre. Prendre les armes, oui, c'est possible, explique tranquillement ce milicien, mais seulement pour défendre des innocents. Les autorités redoutent même par endroits des incidents le jour du vote où des groupes armés viendraient superviser, entre guillemets, la bonne tenue de l'élection. Donald Trump la dénonce d'ores et déjà comme truquée s'il perd. De quoi nous dissuader d'aller voter, soupire cette électrice, complètement paniquée à l'idée de fusil sur le chemin de l'isoloir. Dans le Michigan, pour la première fois, tous les bureaux de vote seront directement reliés à la police.
Théo Manval, et je vous invite à aller sur le site d'Europe1.fr où l'on voit ces photos prises par Théo Manval, justement, de ces miliciens en armes qui manifestent. C'est assez impressionnant. Europe1.fr. Théo Manval, on vous retrouve tous les jours à 8h.
Et notez aussi le journal de la campagne américaine. C'est tous les soirs, 19h10, Xavier Yvon, en direct de New York.
Un premier reconfinement en Europe, c'est en Irlande. Pour 6 semaines, les commerces non essentiels fermés, restaurants uniquement à emporter, les écoles restent ouvertes. Reconfinement aussi au Pays de Galles pour 2 semaines à partir de vendredi soir. En France, il y a eu 19 000 contrôles de police liés au couvre-feu, 3 000 verbalisations selon Gérald Darmanin. Les services de réanimation retrouvent par ailleurs leur taux d'occupation du mois de mai. 2 090 patients s'y trouvent désormais.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant, l'espoir d'une revanche parisienne sur Manchester United.
C'est terminé! Tout le monde exulte du côté de Manchester United! Les joueurs de Paris sont tous à terre!
Ils étaient à terre, ils se sont relevés. Ça, c'était en mars 2019. Le petit PSG a même bien grandi.
A tout de suite, il est 8h08.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
C'est donc ce soir, 21h, le retour de Paris en Ligue des Champions, 2 mois après une finale perdue face au FC Bayern. Voilà Manchester United qui s'avance et ça ne rappelle pas que des bons souvenirs, Julien Froment.
Un an et demi après, la cicatrice est encore ouverte. Le Paris Saint-Germain se souvient comme si c'était hier de ce fameux 6 mars 2019. Un pénalty litigieux en toute fin de rencontre provoqué par Kimpembe. Une défaite 3-1 contre Manchester United et une nouvelle humiliation sur la scène européenne. Mais depuis, Paris a bien rebondi. L'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel.
C'est pas un bon souvenir pour nous. Mais beaucoup de choses ont changé. On a fait une saison extraordinaire pendant la Ligue des Champions l'année dernière. Ça a nous donné beaucoup confiance. Maintenant, c'est le défi de recommencer de gagner.
Malgré les absences de Marco Verratti, de l'attaquant Icardi ou encore de l'Espagnol Bernat, Paris débutera sa Ligue des Champions avec ses deux joyaux, Neymar et Kylian Mbappé. Le Brésilien, blessé en 2019, avait vécu le fiasco contre United depuis le bord de la pelouse. Quant à Mbappé, il avait tout simplement raté son match. Les deux savent désormais ce qu'il en reste à faire. Une revanche à prendre contre les Anglais, un nouveau message à envoyer à l'Europe du foot et prouver que le parcours de l'été dernier était tout sauf un miracle.
Julien Froment qui sera ce soir au commentaire de ce match à 21h. On va suivre aussi Rennes qui reçoit les Russes du FC Krasnodar. Soirée spéciale sur Europe 1 dès 20h autour de Lionel Rousseau et avec tout le service des sports d'Europe 1.
Et puis bonne nouvelle si j'ose dire, si vous vouliez un jour faire un petit tour sur la Lune, vous pourrez faire des selfies et les instagrammer aussi sec dès 2022. Nokia va installer un réseau 4G sur place, ça n'est pas une blague.
J'ai vu passer cette info.
Ça servira aux communications pour le projet de base lunaire permanente. C'est un projet.
Je voudrais qu'on creuse cette information parce qu'on aura le réseau 4G dès 2022, mais l'homme n'y retourne, on l'a raconté la semaine dernière, qu'en 2023-2024.
C'est des projets concurrents. Donc, pour allumer.
Je ne sais pas exactement qui sera sur place. Merci beaucoup François Geffrier. Ça capte pas, on pourra dire ça depuis la Lune désormais. C'était le journal de 8h sur Europe.